L'été venait à peine de s'achever, pourtant les feuilles commençaient déjà à tomber des arbres, étalant un tapis rougeâtre sur les trottoirs de Riazan. On aurait dit de l'herbe brûlée. Les premiers signes de l'automne ne semblaient pourtant pas intéresser Dimitri Tchernychev. Assis dans son bureau au commissariat du quartier de Dashkovo-Pesochnia, le lieutenant de police russe n'observait plus le paysage et gardait ses yeux bleus rivés sur son écran d'ordinateur. Depuis qu'il avait fréquenté le lycée 1535 de Moscou, Dimitri était fasciné par les promesses de l'univers numérique. C'était l'époque de l'Union soviétique. En réalité, la dictature communiste, centralisée, obsédée jusqu'à la paranoïa par la surveillance de la population, avait pris du retard par rapport à l'Occident dans le développement de ces technologies. Oui, bien sûr, dans les années 1950, une machine à calculer électronique, appelée MISM, avait été mise au point à l'Institut d'électrotechnique de Kiev. Par la suite, les ordinateurs Strela, Mir, Minsk, BISM et Argonne, ainsi que Micro 80 et Radio 86 RK, avaient été conçus. Cependant, le fait est que le pays s'était révélé incapable de rivaliser avec le rythme de développement, ni surtout la qualité des ordinateurs produits par l'industrie occidentale. Pour masquer ses lacunes, il avait décidé de diaboliser cette technologie. Dans son empressement à la dévaloriser, il avait même qualifié l'ordinateur de « produit petit bourgeois du capitalisme décadent ». Cette propagande pour bouseux n'avait jamais trompé Dimitri, ni quiconque s'intéressant aux technologies du futur. À l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, le garçon ne s'intéressait absolument pas à l'idéologie ou à ce que disait le régime. Il répétait la doctrine parce qu'il le fallait, tout le monde devait entonner la même chanson, mais ce que ses lèvres disaient, sa tête ne le pensait pas, son cœur ne le ressentait pas. Ce qui l'intéressait vraiment, c'était les ordinateurs et les possibilités infinies qu'ils ouvraient pour l'avenir. Le rêve de Dimitri avait toujours été d'entrer à l'Académie soviétique des sciences et de travailler avec des machines capables de penser et même de parler, comme il le voyait parfois dans les films de science-fiction. La fantaisie de ces films avait commencé à devenir réalité lorsque, à l'époque où il y suivait sa scolarité, l'Electronica BK0010 avait été installée à l'école secondaire 1535. Le premier ordinateur qu'il ait eu devant lui. Quelle émotion ! Il allait pourtant devoir attendre la chute du communisme pour mettre la main sur un précieux Agate qui n'était en fait qu'une simple imitation de l'Apple II américain, à ceci près qu'il tombait tout le temps en panne. Mais ces dysfonctionnements ne dérangeaient pas Dimitri. Ils représentaient d'excellents prétextes pour ouvrir la machine et l'étudier de l'intérieur, comme pour y chercher son âme. « Du thé ?» Il leva la tête. Ekaterina, la nouvelle secrétaire du commissariat, lui souriait. Elle tenait une bouilloire à la main d'où s'échappait une colonne de vapeur. Dimitri n'avait pas eu de petit ami depuis un an déjà et la présence de la nouvelle recrue ne le laissait pas indifférent. La jeune fille était agréable, avec ses cheveux passant du châtain au blond sur les pointes et ses grands yeux bruns pétillant de vie. De plus, elle l'abordait souvent, ce qu'il ne pensait pas être un simple hasard, et ouvrait mille possibilités. Il s'agissait juste de faire la conversation et de voir où cela le mènerait. Le lieutenant prit la tasse posée sur le coin du bureau et la lui tendit. « Juste un peu, s'il vous plaît. » La secrétaire versa le thé dans sa tasse. « Y a-t-il eu de nouvelles découvertes sur Volgodonsk ?» Elle faisait référence au dernier d'une série d'attentats qui avait frappé plusieurs villes au cours des 10 derniers jours, faisant au total 300 morts et plus de 600 blessés, et sémant l'effroi dans toute la Russie. Le pays ne parlait que de ça.
Apparemment, c'était des Tchétchènes, déclara le policier. Et le gouvernement ne fait rien. C'est une honte. Même s'ils étaient membres du KGB, ce nouveau premier ministre est comme les autres. Tous des idiots.
Le premier ministre en question était Vladimir Poutine, nommé à ce poste le mois précédent. « Excusez-moi, lieutenant, mais le nouveau Premier ministre était un membre du KGB. »«
Bien sûr qu'il l'était, vous ne le saviez pas. De plus, avant de devenir chef du gouvernement, il a dirigé le FSB. »« Il faisait référence aux services de sécurité de l'État, successivement connus à l'époque communiste, sous les noms de Tcheka, NKVD et KGB, autant de noms différents pour une même organisation redoutable. Mais tout est différent aujourd'hui. Ce type n'est arrivé au sommet qu'en aidant Yeltsin à se débarrasser du procureur qui enquêtait sur lui. C'est tout. Le reste, ce n'est qu'une grosse tambouille. Comme tous les autres, en fait. Notre Russie est perdue, ma belle.
Elle finit de remplir sa tasse et secoua la tête. Tout ce que je sais, c'est que ces attaques ont été horribles. J'ai des cousins à Volgodonsk qui m'ont dit que tout le monde était encore sous le choc. Vous avez vu ça? Ils ont détruit à la bombe des bâtiments entiers remplis de gens. D'abord Bouïnaksk, puis Moscou, maintenant Volgodonsk. Quelle tragédie! Ils ont même tué des enfants, ces sauvages. Comment peut-il y avoir des gens aussi cruels?
Haussant les épaules, Dimitri but une gorgée de son thé. Il y a des gens dans ce monde qui sont prêts à tout, dit-il banalement. Pour arrêter les criminels, il n'y a que nous, la police.
La jeune fille regarda le pistolet qu'il portait à la ceinture. Si vous aviez un de ces Tchétchènes devant vous, que feriez-vous, lieutenant?
Le policier lui adressa un sourire malicieux. Que pensez-vous qu'un homme bien outillé comme moi ferait?
Elle réprima un petit rire. Oh, je vous en prie! Qu'est-ce que vous feriez?
Mon devoir, bien sûr. Une balle entre les deux yeux. Bam!
Quel dur à cuire!
Vous n'avez pas idée.
La conversation était pleine de sous-entendus, mais ce n'était peut-être pas le meilleur moment pour flirter. Les attaques sur les bâtiments rendaient tout le monde nerveux et Ekaterina semblait particulièrement affectée. Sérieusement, lieutenant, que pensez-vous que notre président va faire pour arrêter ça?
Yeltsin? Rien. Peut-être se bourrer la gueule avec de la vodka, comme d'habitude.
Et le nouveau Premier ministre?
Rien non plus. Je vous l'ai dit, ces gens veulent juste une part du gâteau. Il suffit de regarder les oligarques. Ils se gouvernent eux-mêmes et le peuple se fait avoir. C'est toujours pareil.
Les paroles de l'agent laissèrent un instant la secrétaire sous le choc. Les attentats avaient été horribles. Des centaines de personnes avaient péri dans les explosions des immeubles des trois villes et rien n'allait être fait. Comment était-ce possible? Voyant l'attention de son interlocuteur revenir à l'ordinateur, elle se retourna pour reprendre le samovar et préparer encore du thé à offrir aux autres agents du commissariat. Mais elle s'arrêta en plein mouvement et fixa à nouveau Dimitri. Lieutenant, vous n'avez pas trouvé étrange ce qu'a dit le président de la Douma?
L'agent, déjà plongé dans le monde numérique, cligna des yeux lorsqu'il revint dans le monde réel.
« Hein ? La déclaration de Seleznev ?» insista-t-elle. « Il a interrompu la session de la Douma pour annoncer qu'il avait été informé de l'attentat de Volgodonsk. »
« Et alors ?»«
Seleznev a fait cette déclaration 3 jours avant l'attentat. »
Dimitri cligna de nouveau des yeux.
« Pardon ? Vous ne saviez pas? C'est ma cousine qui me l'a dit. 3 jours avant la destruction du bâtiment de Volgodonsk, le président de la Douma a déclaré qu'il venait d'y avoir un attentat à Volgodonsk. Personne n'y a prêté attention sur le moment, car il n'y avait pas encore eu d'attentat dans la ville. Mais à Volgodonsk, ça n'est pas passé inaperçu, vous imaginez bien. Tout le monde trouvait bizarre que Seleznev parle d'un attentat dans la ville 3 jours avant qu'il ne se produise. C'est étrange, non? L'information surprit l'agent. Il n'avait jamais entendu parler de cela. Le président de la Douma a parlé de l'attentat de Volgodonsk 3 jours avant qu'il ne se produise? Il secoua la tête.
Ce n'est pas possible, jeune fille. Il doit y avoir une erreur.
Je suis allé confirmer ça dans le journal, lieutenant. Seleznev a bien annoncé l'attentat de Volgodonsk 3 jours avant que ça arrive. Juste après l'explosion, un député l'a même interrogé à ce sujet à la Douma. C'est écrit dans le journal.
Dimitri réfléchit un instant avant d'esquisser un sourire. Écoutez, ce qui s'est sûrement passé, c'est que le FSB soupçonnait qu'une attaque pouvait être lancée à Volgodonsk, le président de la Douma aura peut-être mal compris l'information et pensé que l'attaque avait déjà eu lieu. Ce genre de malentendu arrive parfois, surtout dans des périodes confuses comme celle-ci.
Ekaterina pondéra cette explication.
Oui, vous avez raison, finit-elle par reconnaître. C'est bien ce qui s'est passé.